Quatrième et dernier temps de notre série sur l'histoire du feu dans la fabrique de l'histoire. Ce matin, le documentaire sur l'histoire des pompiers de Paris. Après avoir suivi un fil chronologique depuis la domestication du feu, c'était lundi, jusqu'aux Vestales romaines, hier, en passant par le mythe de Prométhée mardi, donc après la domestication, le vol du feu, la garde du feu, c'était hier. Nous vous proposons aujourd'hui de réfléchir à ceux qui nous protègent de ce même feu, les pompiers, un documentaire signé Victor Massé de l'Épinay et Renaud Dalmar, autour de l'histoire et de la mémoire, ça n'est pas la même chose, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Une brigade qui a conscience de son histoire et entretient activement la mémoire de ces grands hommes. On va l'entendre dans ce documentaire avec les témoignages de Sandrine Beaujard-Vallée, de René Daune, de André Ressier, de Daniel Roland, d'Emmanuel Renvoisy, d'Étienne Jacquelin et de Luce Rabillet. Tout cela jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire. On écoute.
À l'âge de 8 ans, mes parents décident de faire intégrer la section de jeunes sapeurs-pompiers de Condé-sur-Noireau, petite commune dans le Calvados, où je vais donc devenir jeune sapeur-pompier à l'âge de 8 ans, et ce jusqu'à 16 ans.
Des mémoires partagées à l'esprit du corps, l'histoire des pompiers de Paris. Victor Massé de l'Épinay, Renaud Dalmar.
2003, après un bac pro de mécanique automobile, je me rends à Paris. A été major Champéry, de manière à pouvoir visiter cet espace patrimonial de Champéry. Autrement dit, la première caserne que je visiterai à Paris, avant d'y être intégré le 3 mars 2004, eh bien sera l'état-major Champéry et son musée. Le hasard des choses, dirons-nous, a fait que j'ai eu la chance d'être ventilé dans la toute première caserne spécifiquement conçue pour accueillir les départs attelés en 1885, qui est la caserne Chaligny, dans le 12e arrondissement actuel. Et donc, quand on commence à se passionner finalement pour notre histoire des sapeurs-pompiers de Paris, la logique fait son affaire, dirons-nous. Et ce qui fait que j'ai maintenant intégré, depuis 3 ans, le musée de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Raconter l'histoire des pompiers de Paris. Au début, c'était ça le projet. Aller fouiller dans les archives, interroger des spécialistes et faire entendre l'histoire de ce corps qui fut bataillon, puis régiment, et depuis 50 ans, brigade, la fameuse BSPP.
Le cadre change, le décor, l'intervention peut changer, mais finalement, les risques sont toujours les mêmes. Le feu, lui, n'a pas changé, quoi.
Une histoire militaire, donc, une histoire technique, une histoire urbaine aussi, celle de Paris et de sa banlieue. Une histoire qui souvent s'inscrit dans des grandes pages de l'histoire de France, la Commune, les guerres mondiales, mais à une place et d'une manière toujours particulière.
Si je vous dis qu'on s'est tapé 3 grosses, une petite sur feu parce que ça débourdinait par les fenêtres, vous n'allez pas comprendre grand-chose.
Une histoire, enfin, rythmée par des feux et des sauvetages héroïques, mais aussi par des drames et par des morts qu'on n'oublie pas.
En pleine nuit, il est 3h du matin, et puis Froide Vreau, malheureusement, se rapproche trop d'un des bâtiments, et c'est une poutre qui s'effondre et qui lui tombe dessus, et qui le tue.
Et puis nous avons rencontré des pompiers, des historiens, mais pas seulement. Des jeunes, des anciens, des réservistes, des formateurs. Et nous nous sommes rendus compte que toujours dans leurs récits, l'histoire, la grande histoire, était liée à des souvenirs, à des mémoires, à un souci de transmission.
C'était une échelle qui avait une histoire incroyable, c'est une échelle qui avait été amenée par les services incendie allemands pendant la dernière guerre, que les pompiers de Paris avaient conservée.
Bien souvent, c'est au détour d'une anecdote sur un casque, un bâtiment, un véhicule ou une intervention que l'histoire se raconte. Entre histoire et mémoire, entre légende et événement, entre rites institués et transmissions personnelles et parfois intimes, il y a des liens que nous avons tenté de démêler. L'histoire des pompiers de Paris, telle qu'ils la racontent donc, et qu'ils se la transmettent, avec en fond cette idée centrale chez tous, celle d'une culture pompier et d'un esprit de corps particulièrement présent. C'est au centre d'instruction des pompiers de Paris, là où naît cet esprit de corps, que nous retrouvons un ancien formateur, André Ressier.
Eh bien, nous nous trouvons à Villeneuve-Saint-Georges, donc au sud de Paris, dans un fort qui abrite le centre d'instruction des pompiers de Paris depuis 1966. C'est un fort construit par le général Séré de Rivière après les guerres de 70 et qui fait partie de la deuxième ceinture des forts qui défendent Paris. Et depuis 1966, tous les mois rentrent des jeunes qui sont formés pour après servir au sein des unités de la brigade.
Et donc, ce lieu, depuis une cinquantaine d'années, est un lieu très symbolique, très important pour tous les pompiers de Paris.
Oui, tout à fait. Quand on parle à des anciens ou à des jeunes sapeurs-pompiers de Paris, leur passage au fort de Villeneuve-Saint-Georges, au centre d'instruction, les marque parce que ils ont 18 ans quand ils arrivent, ils ont quitté papa maman, ils se retrouvent dans une ambiance d'une part militaire, dans un lieu austère, hein, construit après 1870, et qui a été un petit peu modernisé, mais pas énormément. Ils changent de monde, quoi. Ils ont vraiment l'esprit de corps naît à ce moment-là, comme on dit souvent en passant la voûte. Les jeunes qui arrivent passent sous la voûte, ça y est, ils sont sapeurs-pompiers de Paris, ils débouchent dans la cour. C'est un autre monde, un autre univers qui les marque pour toute leur vie.
Cette voûte que vous évoquez, André Ressier, nous nous trouvons juste devant son entrée. Alors, vous nous dites qu'elle est très importante. Est-ce qu'on peut, avec vous, y rentrer? Peut-être que vous pouvez nous la décrire. Et peut-être vous rappeler de ce moment, vous, où en 1966, vous l'avez passé.
Oui, volontiers. Donc c'est une voûte qui fait 50 mètres de long, qui débouche dans la cour principale du fort, qui est donc la seule entrée du fort. Il n'y a pas d'autre entrée pour accéder au fort. Donc effectivement, en 1966, avec mes nouveaux collègues d'instruction, des gens qui venaient de toute la France, dans des camions de type Ford, des camions militaires, nous avons pénétré dans ce fort, sous cette voûte, en fin de journée. Et effectivement, ça reste un souvenir parce que pas d'éclairage, le véhicule résonne, on est attentif aux ordres qui vont nous être donnés. Voilà, donc une nouvelle vie commence et je pense que maintenant les jeunes qui rentrent ont le même sentiment de cette nouvelle vie qui commence avec eux.
Et il y a aussi des mots qui semblent être peut-être des valeurs des pompiers de Paris. Je vois altruisme, efficience, discrétion, il y en a peut-être d'autres plus loin dans la voûte. Est-ce que tous ces mots, vous, André Ressier, efficience, discrétion, ce sont des mots qui vous parlent, qui sont...
Oui, oui, ça fait partie des mots qui sont utilisés très très fréquemment au niveau de la brigade. Et au centre d'instruction en particulier, on les retrouve sur les murs, sur des inscriptions, dans des documents. L'idée est d'inculquer aux jeunes qui rentrent toute la valeur de ces termes pour leur permettre d'assurer leur mission avec efficacité, bien sûr, mais dans un esprit d'ouverture, de disponibilité au service des autres. Donc il y a, outre la formation professionnelle et la formation militaire, une formation humaine, morale, qui est très forte.
Vous imaginez, vous avez... Alors moi, j'avais 19 ans.
Luce Rabillet, ancien pompier de Paris.
Vous arrivez à Villeneuve-Saint-Georges, qui est un fort qui a été construit dans les années 1800 et quelques, et vous avez une voûte qui fait, je ne sais pas, 200 mètres, qui est noire. Vous dites, mais je suis où, là? Où c'est que j'arrive, quoi? Et là, je ne dis pas que vous avez peur, mais vous dites, là, quand même, je mets le pied dans un truc, l'inconnu, complet. Et quand vous avez au bout la lumière, puisque vous avez cette grande cour que vous avez vue, hein, et que vous voyez ces anciens qui vont vous accueillir, parce qu'ils vous accueillent, ah bah, vous sentez quand même pas mal. Mais c'est vrai que la voûte vous marque, oui. Et l'arrivée à Villeneuve-Saint-Georges, à l'époque, on y était pendant 2 mois, c'était intense, très très intense.
Alors on va continuer dans cette voûte et en sortir finalement là-bas au soleil dans la cour du fort de Villeneuve-Saint-Georges, André Ressier.
Là nous allons retrouver la lumière effectivement au bout de cette voûte. Nous débouchons donc dans cette grande cour.
Quand je suis arrivé, on était, je dirais pas à l'âge de pierre, ça serait un petit peu méchant, mais on avait des tenues qui étaient des modèles début du XXe siècle, on avait du matériel qui était un petit peu obsolète, et puis les missions étaient un petit peu différentes de ce que j'ai vécu quand je suis parti en 2007. La menace a évolué, je dirais la mission a évolué, puisque en 78 on ne faisait pas de secours à victimes que dans le cadre de l'habitation. Et à partir des années 80, on a pris tout ce qui était voie publique. On a évolué complètement dans le métier. Et puis bien sûr, la société a évolué. On a connu les premières vagues d'attentats dans les années 80. Et depuis, la menace a complètement évolué. Et surtout, le métier a complètement évolué.
Nous sommes sapeurs-pompiers de Paris, soldats de toutes les régions.
Les jeunes aussi ont évolué. On était différents en 78. Que ceux qui sont là maintenant à notre place. Mais il y a quand même un lien. L'appartenance au corps est toujours là. Et même dans ceux qui rentrent maintenant qui ont 18 ans, cette appartenance, on l'avait déjà en 78.
Alors comment est-ce qu'elle se manifeste, cette appartenance au corps? Qu'est-ce que c'est concrètement? À quoi on se rattache quand on arrive chez les pompiers? Il y a toute une histoire qui nous précède. Comment est-ce qu'on se l'approprie? Par quel signe, par quel témoignage?
Alors déjà, premier temps, c'est un milieu donc militaire, notre niveau, au niveau des pompiers de Paris. Donc déjà, l'histoire militaire se raconte. L'histoire militaire fait que vous êtes baigné tout de suite dans ce qu'était et les valeurs même de la brigade, l'éthique de la brigade sapeurs-pompiers, vous êtes expliqué tout de suite. Vous avez aussi, des anciens qui sont là à tous les niveaux. Ça va, la pyramide des âges est très jeune, mais malgré tout, vous avez encore des gens qui arrivent jusqu'à 59 ans, puisque la limite d'âge actuelle est de 59 ans pour les plus anciens. Et cette transmission se fait de bouche à oreille aussi, déjà dans un premier temps, et puis, par le musée, par tout ce qu'on peut nous voir, entendre, et ils vous apprennent ce que eux ont vécu, et vous êtes friands, moi j'étais friand de comprendre ce qu'ils avaient eux vécu, les plus anciens, quand je suis arrivé en 78. Cette histoire-là, elle est racontée, elle est vécue, et puis on se l'approprie. Après, au bout d'un moment, on est peut-être en train de se dire je ne l'ai pas vécu, mais je vois ce que ça peut être. Ce qui n'est pas malheureusement vrai, mais vous voyez, donc c'est vraiment un esprit de corps.
Et on finit par dire nous, pour parler des pompiers du 19e siècle.
L'histoire de la brigade, donc du bataillon sous Napoléon, à revenir à nos jours, oui, on dit nous.
Je suis entré en 1977.
Didier Roland, ancien pompier de Paris, historien.
Et très tôt, c'est une rencontre qui me fait prendre conscience que j'arrive dans une unité qui n'est pas simplement une unité professionnelle, mais qui est une entité historique dont l'histoire pèse beaucoup plus sur les hommes qu'on ne voudrait bien le penser. En particulier, je suis né en 1958 et quelques semaines après ma naissance, en fait, il y a eu à Paris une explosion remarquable qui a tué trois sapeurs-pompiers et tué des civils et blessé encore d'autres pompiers et civils. Et en fait, cet événement, je vais le vivre de façon tout à fait personnelle puisque je vais rencontrer et des anciens pompiers qui ont participé à l'événement et en particulier le fils d'un des pompiers morts au feu avec qui je travaille dans la même compagnie. Et au fil de mes mutations, eh bien, je vais évoluer sans avoir le contrôle vers la compagnie où s'est passé ce drame. Et en fait, tout ça a été une espèce de connexion qui a donné à cet intérêt pour l'histoire naissant un relief tout à fait particulier et qui m'a fait dire que j'avais aussi, moi, un rôle à jouer dans la mise en valeur de cette histoire qui était très mal connue, qui ne vivait que par des anecdotes. Et c'est une histoire aussi à laquelle j'ai vraiment tenu à donner un sens. Parce que rentrer chez les sapeurs-pompiers, c'est pas simplement un métier. C'est aussi une implication personnelle assez forte, des confrontations à la détresse humaine, et puis tout le sens de cette sécurité à laquelle nous participons, qui n'est pas anodine, cet engagement. Hein, nous avons une devise aussi qui est très forte, et sans tomber dans des rapports trop simplistes, eh bien sauver ou périr, quand on a 20 ans, c'est très fort comme devise. On vient pas ici pour mourir, on vient ici pour servir, pour faire un métier, un idéal, du sport, sans tomber dans le cliché, mais c'est un peu ça. Et cette dimension de la mort, effectivement, eh bien, elle prend ici toute sa valeur, puisque nous sommes confrontés avant tout à la mort des autres. À la fois le premier secours, et parfois aussi le dernier recours, c'est une formule que j'aime bien, parce qu'elle illustre bien la position du pompier. Et quand on est un jeune homme, la plupart de nos pompiers sont des gens très jeunes, eh bien, il faut très vite se situer par rapport à ça. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre la vie, la mort, la détresse et sa vie personnelle. Bien, je pense que l'histoire était un bon outil pour permettre de trouver les limites, comprendre le sens de notre engagement et comprendre l'identité de cette grande maison à laquelle nous donnons du temps, un engagement humain très fort et qui n'est jamais anodin. Il se raconte beaucoup d'histoires au pluriel, mais en fait l'histoire au singulier, on l'a racontée assez peu. Rassembler toutes ces anecdotes, leur donner un sens, fournir des éclairages particuliers sur notre identité, sur notre histoire, ça a été vraiment le fil qui m'a mené à m'engager dans ce travail d'historien.
Impossible d'évoquer l'histoire des sapeurs-pompiers de Paris sans consulter l'ouvrage du chef de bataillon Arnaud, écrit à la fin des années 50, et habituellement surnommé « la Bible » en raison de ses 800 pages. Très factuel, un peu trop peut-être, mais clair et richement documenté. Ouvrons-le à la page 79 qui reproduit le décret impérial numéro 971 du 392e bulletin des lois. Décret impérial portant création d'un corps de sapeurs-pompiers pour la ville de Paris, au palais de Compiègne le 18 septembre 1811. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, médiateur de la Confédération Suisse, etc., etc., etc. Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur, notre Conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit. Titre 1er, composition d'un corps des sapeurs-pompiers. Il sera formé, avant le 1er janvier 1812, un bataillon de sapeurs qui sera chargé spécialement du service des pompes de notre bonne ville de Paris. Fin de citation. Tous les pompiers connaissent cette date, 1811, qui marque la naissance de leur corps. Mais tous ne lisent pas les 800 pages de la Bible du chef de bataillon Arnaud. Cette histoire, elle leur est racontée pendant leur formation. C'est l'une des missions de l'adjudant-chef Jacquelin, qui remonte encore 100 ans en arrière pour raconter une histoire qui commence donc au début du XVIIIe siècle.
Les prémices, dirons-nous, du service de lutte contre l'incendie à Paris dues à un homme qui s'appelait Dumouriez du Perrier. Le comte Dumouriez du Perrier, donc noble provençal, a été, durant sa vie, au service de Molière. C'est un peu compliqué, un peu long. Hein, mais c'est ce que je raconte à mes jeunes lorsqu'ils viennent visiter l'espace patrimonial. Cet homme, Dumouriez du Perrier, il a, durant toute sa vie, aux côtés de Molière, l'occasion de rencontrer beaucoup de beau monde, de patrouiller, de vadrouiller en France et à l'étranger. Nous sommes en 1699, il a quitté Molière depuis longtemps évidemment, parce que Molière est mort, et il se trouve dans les Flandres, et il se trouve témoin d'un incendie, pour lequel il se rend compte que les pompiers de Flandre disposent de matériel qui n'existe pas actuellement sur le royaume. Il s'agit de pompes à bras, et notre ami Dumouriez du Perrier pense qu'il y a un coup à jouer. Il achète deux pompes et... Puisque Molière lui a appris à rentrer par les bonnes portes du royaume, dirons-nous, il va se présenter auprès de Louis XIV en lui proposant cette invention, comme quoi il est temps effectivement de protéger la ville de Paris. Louis XIV tombe sous le charme, effectivement. Louis XIV va donc donner privilège à Dumouriez du Perrier de pouvoir construire, commercialiser ses pompes durant 30 ans sans qu'aucune concurrence puisse voir le jour. Donc cela débouchera sur la création du corps des gardes-pompes de la ville de Paris. Donc au début, disons les choses clairement, c'est nouveau, donc tout va bien. Et puis au fil du temps, eh bien, le 18e siècle se passe, et fin du 18e siècle, nous connaissons la période révolutionnaire, et ce qui fait qu'il devient plus difficile de pouvoir « manager », entre guillemets, nos pompiers de l'époque. Et alors que nous sommes le 1er juillet 1810, Napoléon Ier, qui vient de se remarier avec Marie-Louise d'Autriche, eh bien, organise un bal à l'ambassade d'Autriche. L'ambassade étant trop petite, il est donc décidé de pouvoir utiliser les jardins de l'ambassade, dans lesquels seront installées de grandes tentes avec parquet flottant, de manière à pouvoir organiser ce bal. En termes de prévention d'incendie, on comprend vite qu'aujourd'hui, avec beaucoup de recul, qu'un parquet flottant en bois avec des tentures en coton et de l'éclairage à la bougie, c'est fortement risqué. Surtout quand nous n'avons que 3 pompiers, me semble-t-il, sur place. Le chef des gardes-pompes, lui, est à la campagne. Il est à la campagne pour le week-end. Bon, c'était son choix. En revanche, il n'y a pas de chef sur place. Et alors que vers 23h, une bougie va enflammer les tentures, eh bien, ça va être la panique totale, puisque les quelques pompiers qui sont accumulés dans le fond des jardins sont totalement incapables de gérer ce millier de personnes qui a été invité. Plusieurs dizaines de personnes vont mourir dans cet incendie-là, dont la belle-sœur de l'empereur Napoléon Ier. Les résultats de l'enquête menée seront très simples. Hein. L'organisation du corps de garde-pompe n'est pas bonne. Ce qui provoquera effectivement, après la colère de Napoléon Ier, la création et la militarisation d'un bataillon de sapeurs-pompiers de la ville de Paris. Donc le 18 septembre 1811.
Le caporal-chef Jacquelin est notamment spécialiste des véhicules historiques des pompiers qui seront bientôt exposés à Saint-Ouen, où nous l'avons rencontré. C'est également à Saint-Ouen qu'est stockée une grande partie des archives de la BSPP, et que nous retrouvons, pour nous y guider, Sandrine Beaujard-Vallet, chef du service de la régie des œuvres au centre Pompidou et capitaine réserviste à la brigade.
C'est ici que devrait voir le jour, l'année prochaine, le musée du parc technologique des pompiers de Paris. Donc là, on est effectivement dans une caserne qui est encore active, et donc nous avons ici ce qu'on appelle la bananeraie, qui est en fait, vous voyez, une sorte de grande halle dans laquelle seront présentés des engins historiques anciens de la brigade, voilà, et qui seront évidemment scénarisés, puisqu'il y aura un architecte scénographe qui va travailler avec nous sur ce projet.
Et c'est ici que sont stockées toutes les archives des sapeurs-pompiers de Paris ?
Sont stockées ici les archives, les rapports d'intervention depuis la création jusqu'aux années 80, puisque les 30 dernières années sont encore des archives qui ne sont pas consultables par le tout public, je dirais. Là, nous avons une autorisation spéciale des archives nationales pour conserver, gérer et entretenir nos propres archives, en fait.
Donc, nous venons d'entrer une petite porte verte en bois qui donne directement sur cette bananeraie, sur cette caserne. Et nous nous trouvons dans une salle pleine de rayonnages vides, Sandrine Beaujard-Vallet.
Vous avez effectivement un certain nombre de rayonnages vides parce que vous avez également à côté un certain nombre d'archives qui sont encore palettisées, qui sont encore en cours de traitement, puisque ce chantier qui a commencé il y a 5 ans maintenant a commencé donc sur le site de Masséna, puisque ces archives initialement étaient stockées dans la caserne de Masséna, dans des sous-sols. Et il y a eu un dégât des eaux qui a fait que l'ensemble de ces rapports d'intervention, on parle à peu près de 30 mètres cubes d'archives qui du coup contiennent vraiment l'histoire, vraiment au quotidien, le quotidien des Parisiens et l'histoire de la brigade. Et on va dire qu'à peu près 90% du lot d'archives était touché, c'est-à-dire j'entends développement de micro-organismes type moisissure, et se dégrade très rapidement. Et donc nous avons envoyé ces archives en traitement, et au retour, ces archives ont fait l'objet de 1 an de traitement, de chantier des collections, pour rendre la lisibilité tout simplement aux documents. Alors nous avons ici l'un des volumes les plus anciens que nous avons, que nous conservons. Ce volume donc couvre les années 1839 à 1843. Donc on voit bien sur la page de couverture registre des rapports d'incendie, puisque au XIXe siècle nous parlons encore que d'incendie. J'ouvre le registre, voilà, et vous avez, voilà comment ça se présente, et vous avez tout de suite un dessin d'une intervention. Alors celui-là est relativement simple, nous en avons des plus complexes, décolorés, donc selon les volumes. Vous voyez qu'évidemment tout est écrit, ce qui va de soi pour le XIXe siècle, à la main, dans une écriture plutôt...
élégante.
Plutôt élégante, tout à fait.
On voit par exemple nature de l'incendie, un magasin, rue et quartier, rue du Parc Royal, numéro 4, quartier du Marais, par qui avertit un bourgeois, heure de l'avertissement 10h30,
heure de l'extinction du feu. Non, 10h15.
10h15 pour l'heure de l'avertissement et extinction du feu à 10h30.
Ils ont près de nous une jeune fille qui était prise dans l'immeuble au moment où l'incendie s'est déclaré, je crois, n'est-ce pas ?
Oui, j'étais au premier étage en train de travailler avec mes camarades. Nous étions entourés de papiers. Ce sont les films qui étaient au rez-de-chaussée qui ont brûlé. Alors ça a pris plus d'un seul coup. Nous avions pensé d'abord qu'il s'agissait d'un feu chez la concierge. Et puis les flammes se sont développées à une vitesse extraordinaire.
Nous avons une archive d'un incendie qui a eu lieu le 10 novembre 1949 au 19 rue Saint-Georges à Paris. Est-ce qu'a priori, ici, dans ces archives, on devrait pouvoir trouver le rapport d'intervention qui concerne ce feu ?
Nous allons donc confier au caporal-chef Jacquelin qui travaille entièrement et exclusivement pour le patrimoine et donc à la cellule patrimoine co-dirigée par le capitaine Renvoisy et moi-même.
Paris, 19 rue Saint-Georges.
Mais écoutez,
j'ai d'autres personnes qui étaient en bas.
Écoutez, nous étions en train de crier de nous...
Vous vouliez vous jeter par la fenêtre, je crois. Hein.
Bah, c'est exact. Ils auraient pu prendre des carpettes, par exemple, en face, et puis venir essayer de...
Ou des draps, et puis vous prendre
des draps. Essayer de nous faire descendre.
Écoutez, je m'excuse, mais vous avez dit... Évidemment, c'est tout à fait normal, vous étiez dans les flammes, vous avez dit que les pompiers avaient mis longtemps pour venir. Savez-vous combien de temps ils ont mis pour venir? Non, ils ont mis exactement 3 minutes et demie. Alors, faut-il même pas trop en demander, vous savez.
Ouais, c'est bon.
J'ai éventuellement feu Paris, Rome 49, si vous voulez.
Ah bah...
Bon alors on a fini par le trouver. Merci, caporal chef.
Non mais il y a un marchand de tapis en face qui a changé le carpette là.
Moi alors non, excusez-moi, je ne veux pas du tout plaisanter. Je voudrais vous demander, vous étiez à quel endroit vous, monsieur ?
Premier.
Au premier étage. Oui. Et vous avez eu l'impression qu'il y avait des... On m'a dit qu'il y avait des...
Donc là, nous sommes devant un rapport d'intervention datant du 10 novembre 1949. À 15h20 exactement, département Seine, nous avons là le descriptif d'un feu d'immeuble.
Et qui ont été brûlés.
Ah oui, il y a plusieurs personnes de brûlées.
Il y a eu, en effet, j'ai vu une jeune fille tout à l'heure qui a eu les mains brûlées parce qu'elle se tenait au balcon.
Oui,
elle a eu les mains brûlées.
Il y a également plusieurs décès.
Oui, je sais, il y a 4 personnes qui sont mortes.
Origine de l'incendie, canalisation électrique en cuivre. Point de départ de l'incendie, laboratoire d'essais ou d'études, rez-de-chaussée, mobilier, matériel ou marchandises. Et le feu a pris, donc l'alimentation du feu est apparemment du celluloïde et produit nitré analogue. Couverture en ciment et un descriptif du bâtiment, du nombre d'étages, de l'étage concerné. Et on parle également évidemment de la contiguïté et du voisinage.
J'ai devant moi maintenant un pompier qui a le visage tout noir. Vous sortez de la bagarre alors?
Eh oui, bien entendu, du 4e étage. Où les personnes étaient bloquées là-haut et où le sauvetage a eu lieu à l'aide de l'échelle.
La grande échelle métallique.
La grande échelle métallique de la caserne blanche a été déployée à hauteur du 4e étage pour sauver les personnes qui étaient réfugiées sur la corniche.
Vous êtes noir comme un charbonnier, est-ce que je peux vous demander à quoi ça tient ça?
Ça tient simplement à notre métier.
Oui, en effet, mais dans ce cas particulier.
Simplement à la fumée et aussi à toutes les parties boisées que nous sommes obligés de faire tomber quand elles sont en feu.
Mais comment est-ce que vous êtes protégé vous-même? C'est un métier, je le sais.
Nous n'avons absolument pas aucune protection, simplement... le cran.
C'est vrai ça. Mais vous avez des blessés parmi vous?
Nous n'avons pas de blessés parmi nous.
Ah ben, je vous félicite. Merci beaucoup.
Nous avons également un rapport, un dessin d'intervention où nous avons un écorché de l'immeuble concerné. Et effectivement, nous voyons que le feu a pris donc au niveau du rez-de-chaussée, est monté par la cage de l'ascenseur et s'est propagé au 6e et 7e étage, donc derniers étages de l'immeuble. Ensuite, c'est un autre rapport.
Comme moi, j'avais une formation d'illustrateur graphiste, j'ai toujours travaillé en 3D, alors que les pompiers, jusqu'à ce que j'arrive, travaillaient en plan traditionnel comme tout le monde.
Illustration, bande dessinée et surtout dessin opérationnel, technique dont il est l'initiateur, René Dohn est le dessinateur historique de la brigade.
Et l'arrivée de la 3D a été bénéfique pour eux, puisqu'en fait un incendie se développe essentiellement dans le plan vertical, c'est-à-dire que la chaleur fait monter les flammes et les fumées dans les bâtiments et autour des bâtiments, alors que les vues en plan ne montraient jamais ce type d'information. Et quand j'ai commencé à représenter les incendies en 3D, c'est-à-dire des boîtes, les immeubles étaient des boîtes les uns à côté des autres, dans lesquelles les fumées, les flammes se développaient, on comprenait beaucoup mieux comment l'événement était en train de se produire et de se développer. Voilà, donc petit à petit, on m'a dit, écoute, tes croquis, on en a besoin, sur l'instant. Et ça a fonctionné des dizaines d'années comme ça, au rythme d'une dizaine de grands feux par an à Paris. À Paris, les pompiers sont très présents, on les voyait beaucoup dans les quartiers populaires, les gens, et les enfants surtout, couraient en sortant de l'école, dès qu'une échelle de pompiers passait, tout le monde courait derrière. Et moi, j'ai commencé à dessiner mes premiers camions de pompiers, je devais avoir 6 ans, 7 ans, donc j'étais déjà tombé dans la peinture rouge très tôt, moi, puisque je dessinais tout petit des camions de pompiers, et ils étaient dessinés, quand je revois les dessins, d'une façon assez professionnelle. C'était pas du dessin de gosse, hein. C'était vraiment, il y avait les boulons, il y avait les robinets, il y avait tout sur les véhicules. À 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'avais déjà une bonne connaissance du milieu des pompiers parisiens. Et j'avais un de mes professeurs à mon école d'art graphique qui habitait en face l'état-major de la Porte Champéret. Et c'est lui qui un jour m'a dit, alors j'avais quoi, 17 ans, il me dit, mais écoute, tu dessines tellement bien les camions de pompiers, tu devrais aller voir. Moi, j'habite en face d'une énorme caserne. Ils sortent les camions tous les samedis. Tu verrais, ils les lavent dehors. Alors, moi, j'avais les yeux complètement allumés. Il me dit, va les voir. Bon, je dis, voilà, je fais ma lettre. Et puis, je l'envoie sans y croire. Et puis, je continuais à suivre mes cours. Et puis, un soir, je rentre et ma mère me dit, tiens, il y a un pompier avec une moto rouge là qui est venu cet après-midi, qui a amené une lettre pour toi. Et la lettre, c'était le colonel des pompiers, donc qui commandait le régiment, qui me disait, mais vous pouvez venir dessiner les camions. Et c'est comme ça que j'ai mis le premier pied dans la maison pompier de Paris. Et quand on m'a présenté à ce colonel, il a dit, ce môme-là, faut lui donner une tenue de feu, un laissez-passer, on lui prend une assurance, et on l'appelle quand on a un gros feu, faut qu'il aille dessiner pour nous. Il avait senti, lui, tout de suite, le plus que le travail de dessinateur pouvait apporter. Et ça a duré 52 ans.
Ce colonel dont vous parlez, qui était général donc à la fin de votre service, c'est le général Cassot.
Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui il était et quelle importance il a eu dans l'histoire des sapeurs-pompiers ?
Dans l'histoire des sapeurs-pompiers de Paris, je suis peut-être pas le mieux placé pour vous le dire, mais je l'ai bien connu dans la mesure où c'est le premier officier qui m'a accueilli. Mais c'était un homme d'une grande ouverture. Il avait une formation universitaire, scientifique, très importante. C'était vraiment l'homme de la situation. C'était un homme visionnaire qui a pris vraiment en main les bouleversements que ça créait au niveau du passage régiment-brigade, parce que il y avait toute une infrastructure à changer. On passait d'un régiment qui tenait Paris intramuros et quelques communes autour à un corps qui allait défendre Paris et 3 départements de la périphérie. Donc c'était déjà autre chose. Enfin, beaucoup mieux organisé pour gérer des flux de moyens, la formation des personnels avec l'ouverture du centre de Villeneuve-Saint-Georges. Et Cassot a vraiment été l'homme de la situation. Et pour la petite histoire, quand il s'impliquait beaucoup, lui, dans les interventions. Moi, je l'ai vu sur des interventions d'ouvriers ensevelis. Il y a eu une époque où il y avait beaucoup de travaux dans Paris. Et on avait assez régulièrement des effondrements de tranchées et des ouvriers qui étaient ensevelis dans le sable ou la terre au milieu des planches de bois. Et des fois, ça durait une demi-journée ou une journée pour sortir un ouvrier enseveli vivant. Et j'ai vu notre général Cassot qui était au fond du trou. Si on pouvait mettre que 2 ou 3 pompiers, il était l'un d'eux. Il y allait et il donnait ses ordres au fond de la tranchée.
À Paris, les sapeurs-pompiers changent de patron. Le général Cassot, qui dirigeait depuis près de 8 ans la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, quitte en effet son commandement, et c'est le commandant en second, le colonel Raymond Perdu, qui lui succède.
25 août 1970.
Claude Boulanger a demandé au général Cassot quelle est la mission idéale pour un sapeur-pompier.
La tâche idéale, cela va vous paraître un canular, mais la finalité du métier de sapeur-pompier, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire d'avoir une prévention tellement poussé qu'on n'a plus besoin d'intervenir.
En général, quels sont les conseils que vous souhaiteriez donner à la population de Paris ?
Eh bien, c'est d'abord un conseil de solidité, il faut rester calme devant l'événement. Il faut se garder de la panique, dont nous avons fait une étude exhaustive qui n'est pas finie. Et puis, il faut être compréhensif pour les gens qui appartiennent aux services de secours ou de lutte contre l'incendie, c'est-à-dire leur livrer passage, les aider de leurs conseils et surtout de les appeler en temps utile.
Je me souviens du feu des combles de la Sorbonne vers la fin des événements de mai, où alors il y avait un incendie criminel qui avait été allumé dans la Sorbonne puisqu'elle était occupée à ce moment-là. Un feu important qui tenait tous les combles côté rue des Écoles. Et il est arrivé dans sa déesse noire. Hein, à l'époque, le général avait une déesse noire. Il est descendu au milieu de la rue des Écoles de sa déesse avec son casque sur la tête, son cuir. Et le responsable étudiant arrive et lui dit « Bonjour, camarade pompier ». Le camarade pompier regarde le général qui était bon. C'était un homme qu'on avait tellement fait. Il avait fait la guerre d'Indochine. Il avait été résistant. Il avait fait la guerre de 40. Bon, c'est pas ça qui allait le perturber. C'était le service d'ordre d'étudiants qui faisait la circulation. C'est qu'on avait quand même déroulé pas mal de tuyaux. Les rues autour étaient fermées. Et la police, c'était une semaine où elle était quasiment interdite de séjour dans le quartier latin. Donc, résultat, tout cet incendie s'est déroulé avec un service d'ordre d'étudiants et des pompiers qui étaient là.
Je ne veux connaître ni ta philosophie, ni ta religion, ni ta tendance politique. Peu m'importe que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre, français ou étranger. Si je me permets de te demander quelle est ta peine, ce n'est pas par indiscrétion, mais bien pour mieux t'aider. Quand tu m'appelles, j'accours. Mais assure-toi de m'avoir alerté par les voies les plus rapides et les plus sûres. Les minutes d'attente te paraîtront longues, très longues. Dans ta détresse, pardonne mon apparente lenteur.
Vous venez de nous lire, Didier Roland, l'éthique du pompier de Paris, qui a donc été écrite par le général Cassot à la fin des années 60.
Oui, c'est d'une extrême modernité, parce que instruire le sapeur-pompier aux gestes de secours, ça ne suffisait pas. Il fallait aussi lui rappeler cette sensibilité importante qu'a cette dimension altruiste de l'homme vis-à-vis de son prochain, tout dans les conditions qui sont souvent difficiles, avec des personnes qui sont dans une précarité importante. Et absorber cette détresse, c'était aussi un élément important de notre culture.
Alors, caporal-chef Jacquelin, est-ce qu'il y a un moment de l'histoire des sapeurs-pompiers de Paris où un personnage auquel vous êtes particulièrement attaché, sur lequel vous insistez quand vous formez vos jeunes recrues?
Oui, bien sûr. Je m'attache tout particulièrement à présenter le lieutenant-colonel Sarniguet. Sarniguet, qui est effectivement peu connu, mais qui a été un héros de la résistance au sein du régiment de sapeurs-pompiers de Paris. Lors de la libération de Paris, le 25 août 1944, il monte un commando composé de 5 hommes. Et il se dirige en fourgon mixte de La Haye, modèle 1938. Et sous les tirs allemands, il se rendra à la Tour Eiffel avec ses hommes et montera jusqu'au dernier étage de manière à faire descendre les couleurs allemandes et les remplacer par le drapeau français. Drapeau français qui aura été conçu par des femmes de ces sous-officiers qui habitent donc à la caserne du Plex. Effectivement, c'est beau, c'est symbolique. Ben ça signifie beaucoup finalement pour un jeune sapeur, par exemple, qui vient visiter la salle de tradition à Champéret. Et quand on lui parle du colonel Sarniguet, maintenant il comprend qui il est, cet homme.
C'est à l'espace muséal de la BSPP, situé à l'état-major de la porte de Champéret, qu'Étienne Jacquelin initie les jeunes recrues à l'histoire de la brigade. Une tâche dont s'acquitte également le capitaine réserviste Emmanuel Renvoisy, directeur du collège Patrimoine, qui nous accueille au musée. Capitaine Renvoisy, nous voici dans cet espace muséal de l'état-major. On est devant une vitrine qui nous présente une figure que tous les pompiers de Paris connaissent également. Peut-être que vous allez nous dire qui c'est, capitaine Renvoisy. On voit un gros livre qui s'appelle « La biographie du caporal Thibault ». Et une photo, et une légion d'honneur.
C'est le dossier de presse, j'allais dire, de l'époque.
Vous pouvez nous présenter cette figure du caporal Thibault, nous dire pourquoi elle est si importante?
Comme vous le remarquerez, on est dans cet espace dédié aux pompiers de Paris victimes de voies. On trouve dans son centre ici cette vitrine dédiée à la figure du caporal Thibault qui a servi à la caserne Servigné. Hein. On est dans le Marais et il intervient lors d'un incendie qui se déclare au 134 de la rue du Faubourg Saint-Antoine dans l'arrière-boutique d'un magasin. Là, Thibault sauve une femme, hein, prise de panique, qui ne peut pas sortir, bien entendu. Hein, les flammes sont dans la cage d'escalier. D'ailleurs, on voit les tuyaux ici. Hein, elle est accrochée à son dos avec un drap et il redescend en façade via son échelle accrochée, une échelle en bois. Et c'est grâce à cette échelle accrochée dont il descend les derniers échelons à la force des bras et il se rattrape à l'étage, là, des étages en dessous, fait que bien Thibault effectue là un sauvetage hors du commun. Alors imaginez les passants et une presse qui va se faire l'écho hein, de ce sauvetage. Et Thibault va devenir le symbole national du sauveteur. C'est un héros national. Et puis on peut faire ce lien passé-présent. Hein. L'échelle accrochée arme toujours les engins incendies. Et on effectue encore de nombreux sauvetages. Je rappelle ceux de la rue de Provence, par exemple. On est un parfait exemple en 2005, hein, où les pompiers ont sauvé quand même énormément de gens. Et donc, tout pompier est, ou peut-être un Thibault en puissance demain.
L'échelle accrochée, qui est aussi un symbole du sapeur-pompier de Paris, puisqu'elle a été créée en 1824 par le colonel de Plazanet, elle est toujours utilisée sur intervention, puisqu'on se rend compte que c'est le dernier des moyens de sauvetage qui est utilisé lorsqu'il n'y a plus d'autre solution. Concernant le feu d'avril 2005, donc, de nombreuses échelles accrochées ont été engagées pour effectuer ces sauvetages et il se trouve qu'à une échelle automotrice se trouvait le sergent Pinto à l'époque. À lui seul, il aurait effectué plus de 10 sauvetages à l'aide de son échelle automotrice. C'est quelqu'un qui pour moi est marquant puisque il n'en parle jamais, donc il est extrêmement discret à ce sujet. En revanche, c'est mon chef. Donc quand vous avez un chef qui a fait ses preuves sur le terrain, vous ne pouvez que le respecter de façon plus importante, disons-nous. Nous avons la chance de pouvoir, au sein de la section du musée de la brigade, c'est de se poser réellement des questions fondamentales, finalement. Et je me pose quelques petites questions. Je me dis que si l'adjoint-chef Pinto a subi quelques difficultés à effectuer des sauvetages dans des situations particulières à l'échelle automotrice, est-ce que le caporal Thibault, à l'époque, qui avait certainement une bonne condition, je n'en doute pas, mais a-t-il été réellement capable d'effectuer 10 sauvetages à l'échelle accrochée? J'en doute, sincèrement. Après, c'est un avis personnel. En revanche, ce dont j'ai bien conscience, c'est que à la fin du 19e siècle, il fallait redorer le blason de l'institution, démontrer de manière officielle que le métier de pompier de Paris n'était pas un métier classique, autrement dit. Le caporal Thibault s'est distingué effectivement sur des actions héroïques, je n'en doute pas. En revanche, je pense qu'il n'était pas seul. On avait besoin de créer notre propre héros de manière à donner effectivement de la croyance au sein du pompier, pour les pompiers de Paris.
Bon ! Nous célébrons aujourd'hui la mémoire du sergent-major Hermann. Le 18 mars 1884, en recherchant les causes de l'explosion survenue dans le sous-sol d'une maison au 31 boulevard Bonne Nouvelle à Paris, le sergent-major Hermann et un officier de paix furent tués par une seconde explosion dans la cave du 291 rue Saint-Denis. Son corps repose dans le caveau des morts au feu, cimetière Montparnasse. Repos.
Didier Roland, dans l'histoire des sapeurs-pompiers, il y a une tradition qui tient une place toute particulière, c'est l'appel des morts au feu.
À l'appel.
Qui est effectué chaque lundi matin dans toutes les casernes d'Île-de-France.
Rémi.
Mort au feu.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de...
Caporal-chef Guignard.
Mort au feu.
Du sens de cet appel des morts au feu.
Adjudant-chef Éluard.
Mort au feu.
Sapeur Boulet.
Mort au feu.
Alors cet appel des morts au feu, il naît au début de la Troisième République, en 1881, sous l'impulsion du colonel Paris. Pour la première fois, les sapeurs-pompiers de Paris imposent un rite de mémoire qui consiste en la lecture d'une liste composée au cours de cette décennie des années 1870 à 80 et en fait elle est lue dans toutes les casernes.
Sapeur de première classe maréchal.
Mort au feu.
Sapeur de première classe I2.
Mort au feu.
Sapeur de première classe Guillemot.
Mort au feu.
Caporal chef Bélier.
Mort au feu.
Capitaine Maignan.
Mort au feu.
Caporal Baudry.
Mort au feu.
Sergent-chef Gabreau.
Mort au feu.
Et on a également apposé dans chaque poste de commandement, c'est-à-dire chaque caserne importante, une plaque de marbre avec, c'est une liste funéraire en fait, des pompiers, avec l'adresse de l'endroit où ils ont perdu la vie. Alors c'est un rite tout à fait particulier et il prend une résonance tout à fait étonnante puisque cette tradition d'inscrire les morts sur un monument, eh bien, elle naît dans la mémoire populaire officiellement après la Première Guerre mondiale en 1919, alors que les pompiers pratiquent ce rite depuis les années 1880. Alors ça donne encore une fois une idée de l'identité profonde des sapeurs-pompiers, puisque la grande difficulté d'afficher ces martyrs, eh bien, c'est qu'au regard de ce que les militaires peuvent perdre en nombre d'hommes dans une bataille, perdre un pompier sur un feu ou deux pompiers, ça peut sembler dérisoire. Mais malgré tout, une vie est une vie. Et donc, on a, nous, voulu marquer l'importance de cette vie. Nous avons été également dans l'impossibilité de marquer dans les rues de Paris l'emplacement où nos camarades, nos anciens, sont tombés. Et donc, nous avons intimisé ce culte dans les casernes et ritualisé cette mémoire en provoquant un appel, effectivement. Et selon les époques, les formes de ce rite changent. Une série de noms, ça peut être une tradition complètement désincarnée. Et ça aussi, c'est un travail en histoire qu'il semblait important de faire, c'est donner un sens à ce rituel.
Sapeur de première classe, Blouet.
Mort au feu.
Sergent Mercier.
Mort au feu.
Caporal-chef Martin.
Mort au feu.
Sergent Salel.
Mort au feu.
Caporal-chef Dumont.
Mort au feu.
Au-delà du rite et de la tradition, il y a la vie courante, c'est comment on réoccupe un lit qui a été occupé par quelqu'un qui est décédé en intervention. Comment vivent les témoins de cette mort. Et le rite, le danger des rites, eh bien, c'est d'être trop désincarné, de ne plus voir qu'un nom sur une plaque de marbre. Et derrière tout ça, il est important de donner du corps, de donner un vrai sens, de savoir que derrière, il y a des humains, il y a des papas, il y a des frères, qui des sœurs qui sont décédées. Et tout ça a un impact sur le vivant.
Ça résonne particulièrement pour moi, parce que j'étais malheureusement à Champéry en 2002, quand on a eu 5 gars qui sont morts à Neuilly.
Luce Rabier.
Et ça, c'est un truc... ça vous reste toute votre vie. C'est indélébile. De l'avoir vécu, même j'étais lieutenant à l'époque à Champéry, ça, vous l'oublierez jamais. Moi j'ai toujours leur tête. Alors vous vivez avec, hein, vous n'avez pas le choix. Mais oui, j'ai toujours leur tête. Alors ce cérémonial, c'est rendre honneur aux gens qui ont donné leur vie pour sauver des populations. Tout, hein, parce que je dirais que dans toute la liste, la longue liste, malheureusement bien trop longue, des morts au feu, c'est pour se souvenir et pour ne pas oublier que on fait un métier dangereux et puis les honorer tout le temps. Et quand vous en avez connu, vous les oubliez jamais. Moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets, alors en tant que patron de caserne, de ne pas perdre d'hommes. Et je dirais que ça, c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Donc ce cérémonial-là, il est très important pour faire comprendre aux jeunes cette mémoire et que malheureusement, ça peut encore arriver parce que les derniers, c'est encore pas si vieux que ça. Et que tous les jours, quand vous partez sur intervention, même si vous ne pensez pas à ça, ça peut vous arriver, c'est clair. Et ça, c'est important pour la mémoire de tout le monde. Cette mémoire-là, si on la perd, on se perd.
Merci à Sandrine Bojard-Vallet, René Daun, André Ressier, Luce Rabier, Daniel Roland, Emmanuel Renvoisy et Étienne Jacquelin. Merci également à Gabriel Plus et au bureau de communication de la BSPP, aux officiers du centre d'instruction de Villeneuve-Saint-Georges et aux équipes de l'exposition Pompiers de Paris, notre mission sauvée de l'Hôtel de Ville de Paris. Archivina, Manuela Dubessy et Christophe Jolibois. Prise de son, Yves Lehors et Jérémy Tuile. Mixage, Bruno Mourlan. des mémoires partagées à l'esprit de corps, l'histoire des pompiers de Paris, un documentaire de Victor Massé de Lépinay et Renaud Dalmar.
Voilà donc pour ce documentaire de Victor Massé de Lépinay et Renaud Dalmar que vous pouvez bien évidemment écouter ou réécouter sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont réagi après toute cette série sur l'histoire du feu qui visiblement a intéressé nos auditeurs. Hier d'ailleurs nous vous parlions de l'Antiquité avec les Vestales à Rome. Et bien sachez que si vous vous intéressez à l'histoire de l'art, en particulier nous avons évoqué des bas-reliefs romains dans l'émission d'hier, et bien il y a un grand festival qui s'ouvre ce week-end, c'est-à-dire à partir de demain à Fontainebleau, à Avon, à Milly-la-Forêt en région parisienne. C'est le grand rendez-vous de tous ceux qui aiment l'histoire de l'art, ceux qui en parlent, ceux qui en font. C'est donc tout le week-end, donc un grand rendez-vous qui est important puisque il y a là à la fois deux thématiques, une thématique sur la nature et une autre thématique avec un pays invité, les États-Unis. Et donc ces deux thématiques seront développées tout au long du week-end à Fontainebleau et dans les environs à l'occasion de ce grand festival d'histoire de l'art sur lequel nous reviendrons en partie dans l'émission de demain qui sera par ailleurs consacrée, comme tous les premiers vendredis de chaque mois, à une table ronde fiction où nous explorerons les fictions d'histoire à venir.